Bonjour. Vous avez reçu un texto sur votre téléphone fixe de la part du mobile SFR 06 16 33 06 48. Voici le texto.
Participe toi aussi à la journée mondiale contre la grippe aviaire. Envoie un message de solidarité à une dinde ou un pigeon que tu connais. Moi c'est fait.
SFR vous dit au revoir.
Bonjour Daniel. Ici Marie-Aline d'Annecy, j'ai pris ta dernière émission aujourd'hui, mercredi, en cours de route. Alors je voulais simplement formuler, il y a une phrase qui me plaît bien concernant la pub. La publicité est l'art coupable qui consiste à vendre à des gens qui n'ont pas d'argent des choses dont ils n'ont pas besoin. Peut-être qu'au cours de ton émission, tu l'as servi, cette phrase, parce que je pense qu'elle est assez courante. Enfin, j'avais envie de te la dire. C'est tout. Allez, continue. Merci.
Salut, Daniel. Salut à tous. Bon, c'est un petit coup de gueule, là, les gens du Vigan, ils sont bien gentils, cinquième jour sans télé. Moi, ça fait 8 ans que je suis sans télé. Putain, je vis bien, je suis heureuse, et pourtant je suis au courant de tout ce qui se passe. Il y a la radio, merci France Inter et les autres, il y a les journaux. Alors, foutez-la par la fenêtre, votre télé, c'est tout, quoi. C'est aussi simple que ça. Et mes gosses, elles la réclament pas non plus, parce qu'elles ne savent pas ce que c'est, donc elles sont heureuses sans ça. Voilà, pensez-y, quoi. Salut à tous.
Bonjour à tout le monde, toute l'équipe. Moi, je suis un fan des pubs à la télé. Surtout une que tout le monde reconnaîtra, c'est la fille quand elle me regarde droit dans les yeux et qu'elle me dit que je la vaux bien. Je lui dis que elle aussi elle me vaut bien. Alors si elle m'écoute, qu'elle m'appelle, je vous laisse mon téléphone 01 64 88 49. Allez, merci, salut. Pascal de Saint-Dumont.
Oui, bonjour, bonjour à toute l'équipe. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'émission sur la publicité des enfants et je dois avouer que j'ai un point de vue qui est un peu différent de celui des messages que j'ai entendus aujourd'hui, à savoir que je pense pas que l'oppression de la publicité il faille répondre par la répression. Donc j'essaye moi de faire de la désinformation, de la contre-information avec mes enfants et j'ai deux échantillons, il y en a un qui a 6 ans et l'autre qui a 20 ans. Et je crois que j'ai pas trop mal réussi avec la première, donc je reprends le même chemin, à savoir que j'aime mieux expliquer que la publicité, elle est faite pour prendre des enfants pour des imbéciles, ce qui généralement génère des réactions assez vives chez les enfants, plutôt que leur interdire carrément tout ce qu'ils peuvent ingurgiter, parce que de toute façon, ça échappe à notre contrôle et que la clique des copains autour d'eux, de toute manière, sera aussi un vecteur de ces publicités. Donc, je crois qu'il vaut mieux expliquer que réprimer. Voilà, c'était tout. Et ben, je souhaite une bonne continuation à toute l'équipe. Et puis, lâchez pas la rampe. À bientôt. C'était Marie de Toulouse.
Oui, bonjour à tous. C'est pour vous annoncer le prochain Café Repère des amis de là-bas. Si j'y suis, au lieu dit 6 rue Sorbier, dans à Paris 20e, le samedi 15 avril à 16h. Venez nombreux.
Alors là, nul en pub. On est contre la pub, mais alors, les amis de là-bas, si j'y suis, les repères de là-bas, si j'y suis, là, une voix vachement sinistre, alors qu'on connaît l'endroit, le lieu dit, rue Sorbier, dans le 20e arrondissement, donc c'est à 16h demain. Ça va être très vivant, très marrant et très très jubilant. Très... Et ben voilà, mais à force d'être contre la pub, on a des pubs comme ça. Ça fait rien et vous avez tous compris. Donc quelques messages reçus sur le répondeur de la page j'y suis depuis hier, suite à l'émission, deux émissions d'hier, enfin d'hier et d'avant-hier consacrées à l'enfant face à la pub de façon générale. aujourd'hui, c'est bien l'expression, hein, vendre à des gens qui n'ont pas d'argent, des choses dont ils n'ont pas besoin, ça c'est, je connaissais pas cette définition. Et puis, clin d'œil, évidemment, à l'auditrice qui dit, tiens bon la rampe, j'espère qu'elle pense bien à l'expression de Raymond Queneau dans Salimara, hein, tiens bon la rampe. Clin d'œil, clin d'œil. Aujourd'hui, on va passer une heure avec un livre absolument formidable de François Ruffin, qui s'appelle Quartier Nord, et qui sort chez Fayard. François Ruffin, oui, il travaille pour La Bas Si J'y Suis, il est reporter à La Bas Si J'y Suis, il est aussi le rédac-chef d'un journal qu'il a créé, qui s'appelle Fakir, qui est un journal qui sort sur Amiens, vous vous souvenez, on en avait parlé il y a quelques temps. Il est aussi l'auteur d'un livre qui avait fait grand bruit il y a quelques années, qui s'appelle Les Petits Soldats du Journalisme. Et là, il publie Quartier Nord, donc, qui est le fruit d'une très longue enquête, il appelle ça une enquête de proximité, une épopée de proximité, où il raconte les alentours d'Amiens, les abords d'Amiens, le quartier nord d'Amiens, qui est un quartier comme le quartier il faut pas aller, où il y a des is, vous savez, is sont descendus en ville, is ont fait ci, is ont fait ça, on les appelle les jeunes, on les appelle les... enfin... Vous voyez ce que je veux dire, quoi, hein? Vous voyez bien ce qu'on veut dire. Eh ben, pas du tout. Vous voyez pas du tout ce qu'on veut dire, parce qu'on sait pas très bien ce qui se passe là-bas, quand on est du bon côté. Et François a passé 2 ans à enquêter, à retisser des liens avec les gens de ces cités, de ces endroits défavorisés, comme on dit, sensibles, zones de non-droit. Et c'est un long reportage qui constitue ce bouquin. C'est pas seulement un reportage. C'est une épopée, c'est drôle, c'est marrant, on rigole très souvent, il y a des moments, vous allez voir. On se disait que les messages aujourd'hui étaient un petit peu mous, ils ont un peu la gueule de bois après toutes ces histoires de mobilisation, de CPE, et après c'est normal, ben vous allez voir que non, le combat continue.
Oui, salut, c'est José Beauvais à l'appareil, et je vous appelle, là nous sommes... 150 personnes réunies à l'initiative des faucheurs volontaires de la Confédération paysanne et de Greenpeace. On a envahi le centre de Monsanto à Trèves, donc à côté de Carcassonne, et nous sommes en train aujourd'hui de vérifier à l'intérieur des bâtiments où sont les OGM. Donc bien évidemment, les gardes mobiles sont intervenus, une équipe est sur le toit avec des banderoles, et nous avons commencé le contrôle des sacs. Nous avons débordé les policiers, nous avons pu rentrer à l'intérieur, et nous sommes sûrs aujourd'hui qu'il y a à l'intérieur des bâtiments où nous sommes des OGM, puisque les firmes refusent, Monsanto refuse qu'on puisse aller jusqu'au bout de notre visite, et nous venons d'être expulsés de l'intérieur du bâtiment, à la fois par les gendarmes, mais aussi par des services de sécurité qui étaient avec des chiens d'attaque. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu de blessés. Nous sommes dans la cour du bâtiment et nous allons rester ici le plus longtemps possible pour demander la transparence, puisque les firmes disent qu'ils vont mettre des places des OGM. Nous n'avons aucun moyen de contrôler savoir où, et cela se fait avec la complicité totale du gouvernement qui organise, malgré le refus des Français et malgré le refus de 19 régions sur 21, la mise en place de ces OGM. C'est quelque chose de scandaleux, et pour nous, eh bien, c'est véritablement une situation catastrophique qui est en train de se mettre en place si ces OGM sont plantés cette année. Donc c'est le début de l'action et nous allons continuer et nous incitons maintenant tous les citoyens à faire le contrôle à travers le pays des stocks et des centres de Monsanto, de Pionnier et de Limagrain. Le combat continue, à bientôt, et j'espère que vous aurez ce message. Salut.
Voilà, le combat continue, donc ça n'arrête pas. On va passer cette heure avec François Ruffin et son bouquin Quartier Nord, je le disais, et je ne sais pas si on aura le temps d'évoquer une petite citation dans ce bouquin qui n'a rien à voir avec le corps lui-même du bouquin, mais qui l'éclaire, qui est une petite citation de Bernard Kouchner, qui remet la Légion d'honneur à Liliane Bettencourt. Vous voyez, Liliane Bettencourt, c'est L'Oréal, quoi, la plus grande fortune de France, et qui lui dit ceci: vous auriez pu vous contenter d'être fortuné ou d'être belle, et vous avez les deux qualités à la fois. Voilà ce qu'un homme de gauche dit à Liliane Bettencourt. C'est pas ce que dit François Ruffin aux gens qu'il a rencontrés et qu'il met en scène dans ce livre. On le retrouve donc après ces messages que vous avez laissés. Je rappelle le numéro de répondeur, 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, attention, attention, la clinique de l'Union en région toulousaine en est à son troisième jour de grève, une mobilisation de plus de 90% des services vides, une clinique désertée. Notre directeur Patrice Coad n'a pas tenu ses engagements de rattrapage des salaires du public, accord signé en 2001. Monsieur Coad a dit que, au vu de nos salaires, nous ne tiendrons pas plus de 2 jours. Quel mépris ! C'est ce qu'on verra. Venez nous soutenir sur le parvis de la clinique. Salut Daniel, on te rappelle.
Ouais !
Merci.
C'était juste pour dire que voilà, je suis étudiante à Lyon. Et nous, bah, les facs sont débloqués, les cours ont repris. Mais juste un petit message d'espoir, parce que ces mouvements, pour ma part, m'ont permis de prendre conscience de la société dans laquelle on vit et puis d'ouvrir les yeux, de me réveiller. Et je trouve que ça, ben, c'est super que ce mouvement nous ait permis ça. Après, dire qu'on a gagné parce que le CPE a été retiré, pour moi, c'est pas du tout une victoire, c'est amer. Mais bon, ça me laisse quand même grand espoir parce que moi, en tout cas, je suis réveillée. Je me rendormirai pas. Voilà, bah, c'était Noémie de Lyon. Je vous embrasse tous. Et puis, bah, continuez tous sur votre petit chemin à grandir, à évoluer, à vous réveiller toujours plus fort. Voilà. Ciao.
Bonjour, c'est Jacques. Je vous appelle pour vous prévenir que le repère des Amis de la Bastille suit à tourner en Belgique des ménages et qu'on aura donc notre premier rendez-vous dans notre nouveau lieu ce soir, ce jeudi à 19h et ça se passe au café Les Amis Réunis. C'est sur la rue Saint-Martin à tourner dans le centre-ville et on espère vous y retrouver nombreux. Ciao.
Salut Daniel, je suis Dominique, conseiller ANPE à Nantes. Aujourd'hui, 13 avril 2006, 103e jour de mise en place du suivi mensuel par la NPE, le contrôle des chômeurs se renforce, ici comme ailleurs. Aujourd'hui, par exemple, j'ai reçu un jeune cuisinier qualifié qui recherchait un emploi. Parmi les 20 offres lui correspondant, 18 étaient à temps partiel, moins de 25 heures. S'il n'y répond pas, il risque d'être radié. Conformément aux décisions prises en Assemblée Générale du Personnel, je te livre ce témoignage. Et j'exige la suppression du contrôle mensuel des demandeurs d'emploi. À bientôt.
Bonjour à tous. Terminé le CPE, nous pouvons donc passer à d'autres sigles. Je vous propose donc THT pour très haute tension et EPR pour ce putain de réacteur nucléaire de merde que l'État et EDF veulent nous imposer près de Cherbourg pour transporter ses watts 200 km plus loin via donc une ligne THT de 400 000 volts. Si cela passe, nous en reprendrons tous pour 60 ans par la relance du parc nucléaire. Et nos descendants de plusieurs milliers de générations devront assumer la gestion de ces milliers de mètres cubes supplémentaires de déchets radioactifs, alors que l'on ne sait déjà pas quoi faire de ceux existants à ce jour. Tout cela se passe avec la bénédiction de nos élus de tous bords, alléchés par la taxe professionnelle et prêts à se prostituer pour assurer leur carrière. On les retrouvera en 2007 et 2008 lors des élections. Pas d'accord du tout, nous vous appelons à participer à notre manifestation pacifique et festive du week-end de Pâques, les 15 et 16 avril prochains à Cherbourg. Nous attendons au moins 10 000 manifestants, mais chaque individu compte et gros ignorant. N'ayant pas les moyens d'Areva, nous lançons aussi un appel financier. Tous les renseignements sur jocelyn@stopepr.org, www.stopepr.org. Merci.
Rappelez-vous, Tchernobyl, c'était il y a 20 ans, mais la radioactivité, c'est encore maintenant, en Ukraine, en Biélorussie et chez nous, ici. Alors l'Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest organise une soirée débat avec la projection du film « La vie contaminée » à Rouen, au cinéma Le Melville, jeudi 13 avril à 20h30. Bonsoir.
Bonjour à tous. Un auditeur nous a rappelé hier que 100 000 personnes, comme son beau-frère, allaient encore mourir du fait de l'amiante. Ce scandale de l'amiante, où politiques, entreprises et scientifiques se sont tus, est bien loin d'être terminé. Outre le Clémenceau, près de 2/3 des chantiers de désamiantage ne sont pas aux normes, par exemple. C'est pour essayer de comprendre, entre autres, comment alors que depuis le début du XXe siècle, on sait que l'amiante est mortel, son interdiction effective ne date que du 1er janvier 1997, que l'ATAC Paris 11 organise un débat sur ce thème. Ce débat aura lieu le mardi 21 avril à 19h30 à la mairie du 11e arrondissement de Paris, métro Voltaire, et se fera en présence d'une épidémiologiste et très probablement d'un représentant, de l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante, À bientôt. Sarah pour Attaque Paris 11e.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec François Ruffin pour son livre Quartier Nord.
Flight number 2, arriving from New York.
Muckraker, il me semble qu'on dit ça en anglais. Ça veut dire fouille merde. Et c'était le surnom donné à des journalistes, au temps où les journalistes étaient plutôt du côté des modestes que de l'autre côté. Et François Ruffin, moi je pense que vous êtes un muckraker, c'est-à-dire un fouille-merde. Et ce qui me fait dire ça, c'est votre livre qui sort, Quartier Nord, chez Fayard, où le Quartier Nord, c'est le Quartier Nord d'Amiens, où vous habitez, où vous êtes né, où vous agissez, où vous écrivez, où vous publiez un journal qui s'appelle Fakir, dont on a déjà parlé dans cette émission et qui est bien connu à Amiens. Et pendant 2 ans, vous avez enquêté sur ce quartier nord d'Amiens, mais pas seulement, sur les liens qui peuvent exister entre ce quartier nord et la ville. Et vous appelez ça une épopée de proximité.
C'est-à-dire que j'avais publié un livre qui s'appelait « Les petits soldats du journalisme » où finalement je faisais un peu une critique du journalisme existant. Et après cette critique du journalisme, je me suis dit « Bon, bah faut passer à l'action, faut proposer une pratique de ce journalisme ». Et donc l'occasion m'en a été donnée. Finalement, un jour, j'étais chez moi et il y a une personne qui est rentrée dans mon jardin. Qui est rentré et qui, je peux vous la décrire physiquement, qui pesait, qui était assez enveloppé, qui portait un t-shirt avec des traces de sueur, il était en sandales, il y avait des poils qui dépassaient du t-shirt et instantanément, c'est bête à dire, mais voilà, ça fonctionne de cette manière-là. J'ai collé une étiquette sur lui et je me suis dit, tiens, quartier nord, quoi. Le gars était rentré chez moi, il s'est mis à discuter et tout ça. Et effectivement, il était bel et bien du quartier nord. Il se met à me raconter une histoire, à me dire « Bon bah voilà, je faisais un contrat d'insertion à la citadelle d'Amiens. » La citadelle, c'est une ancienne forteresse militaire où on a fait rentrer un certain nombre de personnes en contrat emploi solidarité pour un peu désengorger le chômage sur le quartier nord. Il s'agissait de d'envoyer. Alors il y a un certain nombre de personnes qui ont dit il s'agit d'enfermer les fauves à l'intérieur. Enfin, vous voyez. Et donc lui, il se trouvait en stage d'insertion à l'intérieur de cette citadelle. Et donc il vient me dire bon, bah, voilà, il y a eu un accident du travail là-bas. Il y a un jeune gars qui est mort tué sous les pierres. Et on nous a dit, il y a une psychologue qui est passée, qui nous a dit, surtout, il faut pas en parler. Parler à personne. Vous n'avez pas le droit d'en parler. Bon, il dit, moi, je trouve pas ça juste, parce que finalement, ça aurait été un jeune fils de bourgeois comme toi, ça aurait été un jeune fils de médecin, bon, ça ferait la une des journaux et ça ferait tout ça. On en parlerait peut-être dans la presse nationale. Là, il se trouve que comme c'est un jeune noir qui vient d'arriver sur le quartier, on le connaît pas et sa mort va passer complètement sous silence. Donc je lui dis, ok, on y va. Et donc pendant un certain nombre de temps, je vais le suivre sur le quartier, on va retrouver des témoins. C'est-à-dire que pour moi, ça me sert de prétexte aussi. On rentre pas sur un quartier en disant, bon, bah voilà, comment vous vivez ici, vous vivez bien. Non, ça fonctionne pas comme ça. Donc là, j'arrive un peu sur la corde de l'empathie en disant, bon, il y a votre copain qui est mort, qu'est-ce que vous en pensez? Et ça permet d'être... Il y a une intrigue, il y a un héros, Zoubir, la personne qui vient me voir chez moi, et le héros que je vais suivre pendant 2 ans, à qui il arrive des tas d'aventures, et c'est un peu une espèce de feuilleton de fresque ordinaire, où Zoubir est mon héros, quoi, et c'est un valeureux.
Voilà, et vous devenez Tintin au pays des zones de l'endroit. Hein, c'est ça votre spécialité comme journaliste. Mais il faut dire que si Zoubir vient vous voir ce jour-là, c'est que depuis quelques années, vous publiez à Amiens un petit journal qui s'appelle Fakir, où vous simplement vous êtes contenté de raconter ce qui se passe dans cette ville d'Amiens. Hein, avec des enquêtes très simples et qui vous a valu des tas d'emmerdements, des procès, et ça a mis le feu quasiment à la ville d'Amiens. Vous avez gagné ces procès et aujourd'hui ça vous vaut sur Amiens une certaine entre guillemets autorité. C'est la raison pour laquelle Zoubir vient vous chercher en disant notre journaliste va nous sortir de là, non?
C'est-à-dire que il vient par l'intermédiaire d'un ami, c'est-à-dire que c'est pas en direct, mais surtout il y a le sentiment que par ce journal, il va y avoir la possibilité de révéler un monde qui est caché. C'est-à-dire les contrats emploi solidarité. Si on prend l'exemple des contrats emploi solidarité, lui est en contrat emploi solidarité, son frère est en contrat emploi solidarité. Je raconte un tas de personnes qui cherchent à avoir des contrats emploi solidarité qui n'obtiennent même plus. Si on prend cet exemple-là, en 2002, il y a une décision du gouvernement Raffarin qui consiste à supprimer 80% des postes en emploi solidarité. 100 000 personnes dont le contrat va se terminer qui ne sont pas remplacées. Ces 100 000 personnes, on imagine que ça soit 100 000 profs, 100 000 ingénieurs, 100 000 médecins qui se retrouvent comme ça en fin de contrat au chômage. On voit un peu ce que ça donnerait sur le plan social. Là, il y a 100 000 personnes qui vont passer à la trappe. Qu'est-ce que ça donne sur France 2 ? Il y a pas un seul sujet, j'ai été vérifié, il n'y a pas un seul sujet sur France 2 qui est consacré à la suppression de ces contrats emploi solidarité. Cette difficulté-là qui est vécue par des centaines de milliers de personnes, si on regarde le magazine phare de France 2 qui est envoyé spécial, il ne va pas y avoir un seul sujet sur le logement social sur France 2 au cours de ces dernières années. Donc je pense qu'il y a un continent qui est complètement oublié. Et si je peux apporter quelque chose d'original, c'est d'avoir été au contact de ce quotidien-là, de cet ordinaire-là, parce que les gens sur le quartier, ils comprenaient pas, Zoubir en premier, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu cherches? On va pas trouver Ben Laden hein, dans les caves, on va pas trouver les Kalachnikovs, parce qu'ils disaient, bon bah voilà, quand envoyé spécial vient chez nous, c'est pour trouver des imams qui prêchent un islam complètement radical, c'est pour trouver des Kalachnikovs. Moi je dis, non, moi ce qui m'intéresse, c'est comment tu fais tes courses aux mutants du coin, ou bien ses rêves d'avoir un pavillon, il se trouve devant son HLM, et là il dessine un pavillon complètement virtuel, avec là je mettrai la cuisine, là je mettrai, et puis bon, j'aurai un emprunt de 30 000 euros. Est-ce que tu crois qu'on pourrait avoir ça, François? Et donc, je vais essayer d'aller voir, on va essayer d'aller voir chez Finaref, chez machin, dans les sociétés de crédit, on va aller voir les pavillons. Donc, c'est juste ce quotidien-là qui est un quotidien complètement oublié. Quand je me trouvais au centre de formation des journalistes, et on nous enseignait en permanence à avoir des sources. Vous savez, on nous disait qu'il fallait des sources dans les ministères, il fallait des sources dans les syndicats, des sources dans les partis politiques, alors que finalement, la plus essentielle des sources, c'est pas des sources chez ces autorités, c'est d'avoir des sources à la base. Et finalement, il y a une incapacité des journalistes aujourd'hui à avoir ces sources à la base. Et le fait d'avoir fait mon terrain...
Pourquoi cette incapacité?
C'est une incapacité sociale, déjà. J'ai fait un débat au centre de formation des journalistes sur le non-traitement de l'actualité sociale dans les médias. Et il y a une journaliste, une future journaliste qui vient me voir et dit, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de faire un sujet sur le passage du RMI au RMA. Qui est-ce que vous me conseillez de rencontrer? Et alors, je lui dis, écoute, pour ce qui est de trouver des responsables d'associations qui vont te parler ça, c'est bon, t'en auras l'appel. Ce qui me paraît intéressant, c'est juste de trouver 5 ou 6 personnes qui sont effectivement au RMI et qu'on veut faire passer au RMA. Moi, j'avais ça. J'avais une personne que je pistonnais, une mère de famille algérienne, que je pistonnais, qui avait 3 enfants et qui était célibataire, que j'essayais de pistonner pour rentrer à l'université, femme de ménage, l'après-midi. Et bon, elle reçoit un papier de l'université en disant le poste de contrat emploi solidarité est déjà pourvu, il n'y a pas possibilité d'y aller. Donc elle réfléchit quelques jours, elle dit je vais essayer pour le matin. Mais ça faisait qu'elle devait traverser complètement la ville, se lever à 5h du matin, placer ses enfants, elle savait pas trop où. Bon, finalement elle postule et on lui dit le poste de contrat emploi solidarité est déjà pourvu. Et en même temps qu'elle reçoit cette lettre-là, elle reçoit un deuxième courrier du conseil général qui lui dit, madame, il va falloir penser à faire des démarches d'insertion, sinon on va vous couper votre RMI. Donc c'est ça, moi je lui dis à la fille du OCFJ, je lui dis, ça serait intéressant que t'aies des gens qui se trouvent dans cette situation-là, dans ce double discours. Elle me dit, mais justement, moi ce que j'ai du mal à trouver, c'est les personnes en RMI. Et je lui dis, mais écoute, s'il y avait eu à faire un sujet sur la médecine libérale, t'aurais eu bien moins de difficultés à trouver autant dans ton entourage que parmi les autres élèves de l'école des gens qui sont médecins libéraux. Il y a une fracture qui est vraie pour l'ensemble de la population. Ce quartier nord, il n'y a pas grand monde qui habite au centre-ville ou qui habite les quartiers sud qui s'y rend. Mais c'est vrai également pour les journalistes. Il y a une fracture qui fait que c'est un monde qui vit à part et on ne sait pas toujours ce qui s'y passe.
Tu vois aussi, j'ai une belle vue. C'est la 86. Mais bon, on voit Paris.
Puis après, on a été manger une glace dans un café. Les cafés ici en banlieue, il n'y a que les hommes qui y rentrent. Et c'est tout. On passait devant les cafés, on courait, on avait peur. Et là, c'était être sur la terrasse, manger une glace. C'est vrai que les prix sont un peu plus chers qu'ici, mais c'est vraiment la liberté.
On avait envie de connaître autre chose que nos frères, quoi. C'était peut-être aussi ça, l'attrait de Paris. Moi, c'est pas méchant contre mes frères, mais ni leurs copains. Mais bon, j'ai vu les gens, comment ils vivaient, les femmes, comment elles étaient habillées. Pas dévergondées, mais quand même, c'était chic de voir des femmes comme ça.
J'ai eu peur, j'ai vu que c'était immense. C'était trop grand pour moi. Ça a rien à voir de ce que j'ai vécu. Je voyais le monde autrement que chez moi.
Le Monde Autrement que chez moi, c'était un extrait d'un reportage qu'on avait fait avec Dylan Tebbi à la Courneuve, au 4000, sur un Paris. Je lui racontais que moi, dans mon enfance, je suis né dans le 9-3, et à 7 km de Paris. Et j'expliquais à Dylan un jour à quel point c'était toute une affaire extraordinaire de franchir ces 7 km pour arriver à la capitale à l'époque. Et Dylan me dit, mais tu sais, aujourd'hui, je connais plein de gens, moi, pour qui Paris est un endroit incroyable, et la première fois, je suis sûr qu'ils s'en souviennent, etc. D'où l'idée d'aller voir les dames, et uniquement les femmes, des 4000 à la Courneuve, qui ont raconté leur première fois à Paris. C'est la même idée, c'est l'idée de d'écrire l'ordinaire d'une classe qu'on n'entend pas, dit Ruffin pour présenter son bouquin. Il dit bien classe, hein, c'est pas quelqu'un qui dit catégorie, machin, social, etc. Il dit bien classe, et il dit des gens qui sont ethniquement étrangers, un peu, et socialement étrangers, surtout. Et surtout, c'est ce sentiment d'inutilité. On oublie complètement ce qu'est ce sentiment d'inutilité, être inutile, et c'est incroyable gâchis. Mais vous trompez pas en l'écoutant commenter son propre bouquin. C'est drôle, c'est jubilant, c'est plein de vie, d'énergie, et je sais pas si ça file la patate, mais ça donne envie de se battre.
Je voulais écrire quelque chose qui soit comme un feuilleton, où il y ait des héros, des personnages à suivre et tout ça. Et je me suis rendu compte que la bonne manière de fonctionner, c'était de se laisser vampiriser en un sens, quoi. C'est-à-dire que, en permanence, je rends service à tout le monde. Alors que ça soit, par exemple, un dealer, puisque on peut dire que j'étais complice de deals d'héroïne, que j'aide en transportant en bagnole d'un quartier à l'autre, des revendeurs à ses fournisseurs. Ensuite, je fais des lettres de motivation, pour les candidats. Comme un éducateur, je vais dans les agences d'intérim pour faire un peu l'éducateur qui aide à obtenir un poste éventuellement. Je cherche à pistonner pour avoir des emplois à la mairie de Paris. Finalement, je rends service un peu en vrac, et c'est ma manière de tisser des liens. Alors c'est une manière intéressée, mais en même temps il y a de l'amitié. C'est-à-dire que je suis pas le journaliste qui est en face, qui regarde. Il y a un engagement, et surtout il y a une donnée qui est capitale, c'est le temps. Il y a des discours à plusieurs niveaux qui se découvrent au fur et à mesure, quoi.
Et on sent la vie. Alors il y a des événements, bien entendu, parce que vous êtes journaliste, il vous faut des événements, même si c'est des petits événements, il en faut quand même. Mais il y a aussi des moments où vous faites comprendre l'ennui formidable dans ces cités, enfin dans ces quartiers. Vous avez une expression, vous dites tuer les après-midi comme des cafards.
Bah, c'est vrai que il y a des moments, enfin quand il y a pas de boulot, et c'est quand même le cœur du livre, c'est la lutte pour l'emploi, y compris
la survie sociale,
y compris la lutte pour vider des poubelles pendant une semaine. Les gars se bagarrent pour ça. Il y a le frère de Zoubir qui est le premier bachelier de toute la famille, que je vais accompagner dans les agences d'intérim. Il a 3 lignes sur son CV. Il a castration de maïs. Il a fait un stage en mer avec la Croix-Rouge. Bon, et il y a 3 de ça. On rentre dans toutes les boîtes d'intérim. Le gars de la boîte d'intérim dit, bon, bah, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Ça dure même pas 30 secondes. Le CV est déposé sur une chaise, voire jeté directement à la poubelle. Et là, à chaque fois, ça vient dire au frère de Lubière, qui est pourtant le premier bachelier de sa génération, toi, aujourd'hui, sur le marché du travail, tu ne vaux rien. Et donc, à chaque fois, il se recoiffe avec sa casquette Roland Garros, comme s'il y avait un peu un boulet qui venait de passer, qui venait de le défriser. On passe à une autre agence d'intérim. Moi, je dis non, mais ça suffit, parce que c'est aller au casse-pipe à chaque fois. Il va faire ça un certain nombre de fois. Finalement, comment il va obtenir du boulot? C'est Zoubir, son frère, qui va plus ou moins se faire copain avec la maîtresse d'école. La maîtresse d'école lui dit, moi, j'ai mon mari qui travaille chez Onyx, dans les bennes à ordures. Si vous voulez, on peut mettre son dossier sur le dessus de la pile et il sera peut-être embauché. Et donc, de fait, le frère de Zoubir est embauché pendant une semaine pour faire du tri de déchets chez Onyx. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand un bachelier, pour pouvoir faire du tri de déchets pendant une semaine, est obligé d'être pistonné? Donc, c'est ça le cœur du livre. C'est quand même cette lutte pour la survie sociale, pour l'emploi. Et effectivement, une fois que un certain nombre de personnes, parce que sont suffisamment découragées, ce qui est le cas de Zoubir, qui est découragé face au monde de l'emploi, bah, faut occuper ses après-midi. Alors, Zoubir, il surinvestit dans la famille. Il a 5 enfants. Il a 4 enfants au moment où je le rencontre. Il rêve d'en faire un 5e. Il dit, pour moi, ça serait vachement bien d'en faire un 5e parce qu'au moins, je suis occupé pendant 2-3 ans. Et puis, quand on est au marché, pour le baptême, il distribue des cartons d'invitation, mais comme si c'était des tracts contre le CPE. C'est-à-dire, il le distribue à tout le monde sur le marché, parce que il se reconstruit par la famille plus que par le boulot. Mais c'est une manière d'occuper le temps aussi.
Ouais, moi, chaque fois que j'arrive, je fais d'abord moi, 10 à 20 minutes de vélo avant d'attaquer les jambes. Je fais de la muscu en complément d'un sport, parce que moi, je fais du volley en club. C'est pour ça que je fais beaucoup plus les jambes.
Et à côté de ça, tu travailles ?
Bah, aujourd'hui, j'ai terminé mes études en 2003. Des études d'informatique en fait. Je me suis arrêté au 2SS, donc ensuite je pouvais plus aller plus loin. Ensuite j'ai postulé à droite à gauche. Au bout de 10 mois j'ai trouvé un emploi sur Paris.
Au bout de combien de temps ?
10 mois.
10 mois ? Alors que t'avais un bac plus 5, DESS c'est bac plus 5, c'est ça ?
Tout à fait, oui.
Je sais pas, dans ta famille, il y a beaucoup de monde qui a fait des études aussi longues ?
Je suis peut-être le premier arrivé au niveau bac plus 5 à l'université.
Donc finalement, tu réussis scolairement. En plus, tu le fais pas dans un truc genre socio, psycho, philo. Tu le fais dans un truc scientifique qui est quand même supposé être recherché. T'as postulé dans quoi ?
Au départ, dans différentes boîtes informatiques. Donc sur Amiens, le parcours classique, inscription aux ACDIC et à l'ANPE. Soit de façon manuscrite ou par internet. J'essaie de rester à jour dans mes connaissances. Donc je continuais à aller à la bibliothèque universitaire avec mon PC portable. Premiers entretiens, ça a été au bout de 3-4 mois, donc ça c'est tard. Donc j'ai bien insisté sur le fait que j'étais très mobile.
Donc là, t'as trouvé ton premier emploi là-bas.
Voilà, c'était pour une mission d'un mois et demi.
Combien de temps t'es resté là-bas ?
Un mois et demi.
Ah, t'es sorti de l'université, t'as eu 10 mois de chômage, t'as eu un contrat d'un mois et demi et tu te retrouves à nouveau au chômage.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Alors, on est toujours à Amiens, et il y a une municipalité à Amiens qui agit, en principe, sur ces quartiers.
Les pouvoirs de la municipalité, ils sont quand même aussi assez limités. Mais donc, il va y avoir ce chantier d'insertion de la citadelle qui va être
vous
fait.
Vous n'épargnez pas, monsieur de Robien.
Notamment pour ce qui est ce dossier de la citadelle, parce que là, on voit bien, c'est un cas d'école sur deux discours, enfin un discours et une réalité, et c'est comme si tout le monde se satisfaisait que le discours soit complètement disjoint de la réalité. C'est-à-dire que de Robien va en visite. C'est devenu le chantier d'insertion de la citadelle. C'était un peu comme si le bonheur était dans le chantier. Et donc, il y a des visites de notables en permanence sur ce chantier où on vient nous dire que c'est merveilleux ce qui s'y passe, que les gars qui gagnent 3000 balles sont heureux, que c'est vraiment ce qu'il faut développer. Il y a un géo, un espèce de gentil organisateur qui fait des visites de ce chantier-là. Et après, il y a des articles dans la presse, au conseil municipal, où de Robien dit que c'est vraiment absolument merveilleux et tout ça. Et jamais il écoute les gens qui sont sur ce chantier. Jamais il les écoute un peu plus que 30 secondes. Bon, il va se produire cet accident sur le chantier d'insertion où il y a une responsabilité de la municipalité qui est assez colossale. Il faut savoir que 4 ans se sont écoulés depuis qu'il y a eu cet accident. 4 ans plus tard, il n'y a toujours pas de procès, alors qu'il y a eu une plainte. Il n'y a toujours pas eu, l'instruction n'est toujours pas achevée. Donc ça veut dire qu'il y a une totale disjonction entre le discours qui dit « voilà, tout va bien » et une réalité sociale qui est quand même à l'opposé de tout ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve en permanence. Quand on entend le gouvernement qui propose des formations à tir l'arrêt, qui dit « voilà, il n'y a pas de problème, les jeunes n'ont qu'à entrer en formation ». Il y a l'un des personnages que je suis, qui était dealer, qui cherche à décrocher de ça, sorti de prison, il sort de prison sans papier, sans logement, sans boulot, il cherche à décrocher du deal et on va chercher à lui obtenir une formation. Eh bien, ça aura mis deux ans. C'est pas dans le livre parce qu'il vient de l'obtenir. Il y a 2 ans qui se sont écoulés entre le moment où il a fait sa demande de formation et le moment où il l'obtient. Et ça, le gouvernement, il vient dire, bon, il n'y a pas de problème. Et c'est le cas sur l'ensemble des dossiers où il y a une totale disjonction entre les discours qui soient des journalistes, même, je dirais, dans ce qu'on peut entendre à gauche quand on fait toutes les réunions attaques, et j'en ai fait un paquet, il y a un moment où, vous voyez, il y a des slogans qui reviennent, néolibéral, ultra-libéral, précarité, c'est des mots qui reviennent en permanence, et c'est des mots qui ont perdu toute chair.
Oui.
Quels sont les visages qui se trouvent derrière ça ? Quels sont les parcours ? Quelles sont les trajectoires ? Quelles sont les paroles ? Quels sont les discours ? C'est comme si c'était vidé de tout ça, et il y avait un monde du discours qui se baladait un peu comme ça, et puis il y avait d'un autre côté une réalité, mais il n'y a plus personne pour servir de témoin, pour passer le relais et dire, voilà comment ça se passe en vérité.
Il s'agit de témoins, il ne s'agit pas uniquement de victimes, vos personnages, encore une fois, je dis personnages, ça fait roman, roman, mais en fait c'est pas un roman, c'est même pas un roman-quête, hein. Vous n'êtes pas encore à ce niveau de atteint par Bernard-Henri Lévy. Et c'est il y a une complexité de chacun, et c'est, ils sont, il y a une humanité,
il y a de la joie aussi. Il y a au moins, c'est-à-dire c'est comme si
on se marre très souvent, hein.
Ben j'espère qu'on se marre, j'espère que c'est rigolo, j'espère que c'est drôle, parce que parce que j'ai eu une vraie joie de vivre à le faire, ce livre-là, quoi. Et donc il y a autour c'est comme s'il y avait tout un monde qui est devenu inatteignable. Le monde de l'emploi devient, pour certains d'entre eux, il y a un renoncement. Alors on se renferme à l'intérieur d'un monde où il y a du trafic de drogue, où il y a des problèmes de logement, où il y a des problèmes d'emploi. Mais malgré tout, à l'intérieur de ça, on arrive à se retrouver un cocon de bonheur. Et le bonheur, ça peut passer par différentes choses. Dans des situations absolument étonnantes, on peut se retrouver, par exemple, ça peut être la salle de musculation. La salle de musculation qui est un moyen de venir maintenir sa volonté en venant à la muscu tous les matins. Par exemple, le dealer que je suis, qui cherche à se reconvertir, je me retrouve chez lui, donc à la campagne. Enfin, c'est chez sa femme, en fait, sa femme qui, tant qu'il n'est pas vraiment rangé les voitures, le tient plus ou moins à l'extérieur. Ils vivent pas trop ensemble parce qu'elle, elle touche une allocation parent isolé et il faut pas qu'ils se fassent choper en étant ensemble. Mais un coup de temps en temps, il y va. Et donc là, on se retrouve chez sa femme le soir avec ses enfants. Et je suis devant la télé où il y a une scène où justement des dealers sont arrêtés, ils sont plaqués au sol et tout ça. Et là, il y a mon gars à moi, Rodrigue, qui se trouve à la cuisine en train de faire la vaisselle. Parce que chaque fois qu'il se trouve chez sa femme, il a tellement envie de lui dire « laisse-moi revenir avec toi, aime-moi » que il met les patins pour rentrer dans la cuisine, il fait tout le nettoyage et tout ça. Et le soir, quand on va repartir de là, qu'est-ce qu'il va aller faire ? Il va aller chercher tous les jouets qui se trouvaient dans le garage, dans un petit appentis derrière. Il va aller tous les jouets, les vieux jouets de ses enfants, il va les mettre dans des cartons pour les charger dans ma voiture et aller les revendre à la raiderie du lendemain. Donc on voit là, c'est des méthodes de survie qu'on n'imagine pas quand on voit un dealer à la télévision, quoi. Et les gamins, pendant qu'on s'en va, ils s'enlacent autour de ses jambes, et lui, il les adore, il est absolument fanatique de ses gamins. Ses enfants lui demandent « Mais alors où tu vas, papa ?» Et lui, il dit « Bah, papa, il est camionneur, il va passer une semaine à l'extérieur. » Mais simplement, c'est des scènes qu'on peut pas imaginer quand on se contente du regard médiatique, du regard a priori. C'est un grand mec black qui peut faire un peu peur aux journalistes que je suis au départ. J'ose pas trop l'approcher. Et en fait, quand on franchit cette ligne-là, ben, on découvre toute une humanité, et une humanité heureuse aussi, parce qu'il y a du bonheur dans tout ça derrière cette façade.
Ben alors, dans ce monde que vous découvrez, que vous décrivez en empathie, hein, comme un reporter est censé le faire. Quand vous êtes à l'intérieur de ce monde-là, et vous revenez dans le vôtre, enfin, si toutefois c'est aussi tranché que ça, on exagère un petit peu pour faire comprendre, quel est le regard que vos personnages, ceux que vous citez, ont du centre-ville, des milieux bourgeois?
Je racontais l'arrivée de Zoubir dans mon jardin, où je lui colle d'emblée l'étiquette quartier nord à cause de sa démarche, un certain nombre de choses comme ça. Mais moi, quand je suis sur le quartier, j'arrive avec ma bicyclette, vous voyez, je sais pas si j'ai ma petite chemise ou mon pantalon en toile, enfin un truc un peu comme ça, avec mon visage de blanc et tout ça, bien soigné, mais ça ne met pas deux secondes avant que tout le monde me colle l'étiquette centre-ville. Et Zoubir, la première fois qu'il m'accueille, il me dit bah, « je t'ai accueilli parce que tu me faisais pitié, quoi. Quand tu étais sur le quartier, tu me faisais pitié. » un lieu qui va bien symboliser ça, c'est la salle de musculation, par exemple. La première fois que je vais que je me retrouve devant la salle de musculation, j'ose pas y rentrer, parce que c'est un couloir un peu obscur. Derrière, il y a des blacks, des beurs qui font la musculation, qui dégoulinent de sueur, et puis tout ça, j'ai des craintes d'entrer là-dedans. Et en fait, ensuite, il y a un autre mec qui me reconduit là-dedans, qui me fait rentrer un peu de force, qui me traîne à l'intérieur, et qui dit « Vas-y, tu vas voir, c'est sympa. » Et puis finalement, une fois passées les premières appréhensions, effectivement, je me mets à la muscu plus ou moins doucement. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'animateur de cette salle de musculation-là, il me dit « Mais moi, quand j'allais dans les salles de musculation du centre-ville, j'y restais 30 secondes, et je voyais au regard et aux paroles des gens que c'était pas ma place, que j'avais pas à être là. » Et de la même manière, le dealer, pour qu'il décroche plus ou moins, il s'accroche à moi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, immédiatement, quand je vais à des conférences ou des trucs comme ça, il vient avec moi. Souvent, on est allé à Lille, où on était hébergé chez un grossiste, en héroïne, quoi. On se retrouve à Lille et il va à la Fnac avec moi. Et c'est vrai que son look, son physique, il détonne complètement
au milieu de la bienséance bourgeoise, un peu alternative, machin, mais quand même, où c'est pas, on sent que c'est pas son milieu, quoi. Mais je dirais, moi, je suis contraint de l'accepter comme tel. Là, puisque lui, il m'accepte bien comme tel, quand je vais dans son quartier, jamais je me suis fringué en jogging, jamais j'ai fait le rappeur ou quoi que ce soit. Quand j'étais sur le quartier, on m'a plus ou moins accepté comme je suis, quoi. Donc ça induit la même tolérance quand c'est lui qui m'accompagne dans des tournées, des choses comme ça. Mais il y a un clivage qui est très net, quoi.
C'est extraordinaire en vous écoutant, parce que on pense à des écrivains. Vous parlez de Zola, hein, vous dites
chez les pauvres c'est Dreyfus tous les jours, et ça sert à rien qu'il y ait un Zola parce qu'il en faudrait 1000, quoi.
Voilà. Et on pense à ces époques quand même, au tournant du 19e siècle, fin du 19e siècle, où un certain nombre d'écrivains qu'on taxait de populistes, mais trouvaient dans la classe populaire, la classe ouvrière, la matière de leurs romans, de leurs fictions, pas seulement des exemples pour pleurer. Hein. Disons qu'aujourd'hui, le meilleur du reportage, ce serait la déploration, l'indignation face à des victimes. Et on a eu aussi ça dans les écrivains, je pense à Jack London, je pense enfin à Albert Londres dans certains de ses reportages, pour revenir sur le thème des journalistes. Et effectivement, il semble que depuis longtemps, on n'ait pas fait ce genre de choses en France, qu'on n'ait plus du tout cette approche-là, ni dans la littérature, ni dans le journalisme, ni dans le reportage.
Oui, c'est vrai. Moi, j'avais des chapitres, j'avais beaucoup plus de chapitres de critique des médias, et y compris de critique de la littérature. Parce qu'aujourd'hui, la littérature, c'est centré sur l'ego. Quand je regarde le roman français en général, c'est une littérature très nombriliste. Et c'est vrai que je me reconnais dans la tradition du roman populiste. Et c'est intéressant parce que le terme populiste, qui est utilisé comme une injure quasiment par l'ensemble des médias, des journalistes, qu'est-ce qu'on regarde? Si on regarde la définition, la seule définition qu'en donne le Robert, c'est courant littéraire qui s'applique à dépeindre avec réalisme la vie des gens du peuple. C'est-à-dire que normalement, ça devrait être une des fonctions du journaliste, un éloge de ce métier, de dire quelqu'un qui s'applique à dépeindre avec réalisme la vie des gens du peuple. Et c'est comme si, à la place, il y avait c'était retourné, ce qui devrait être un devoir, était retourné en injure.
Étrange sentiment d'appartenance à un monde varié, mais dans lequel on me refuse la diversité. Nous sommes des clichés enfermés dans une trop étroite identité, mais je ne peux plus m'enfermer dans celui qu'on me désigne. Aucune définition réductrice ne m'agrippe, je ne peux m'empêcher d'être l'un et le multi. Alors dans ce monde varié, on perd en son étrange ensemble, je ne peux me résigner à n'être qu'un, et ce que ça arrange de nous mettre dans des cases des franges, mon exemple brise leurs clichés, dérange et miette leur pain quotidien. On se veut unique, mais on devient viande de plus en plus tendre, rentrant dans des cases telles des offrandes à la loi marchande. Et même si on tente de se démarquer, on alimente un nouveau cliché qu'on vante, et au final on fait que ça on représente. Alors être valable se confond avec vendable, récupérable, humain interchangeable et sur le tard. S'exécuter dans un système qui vend ses citoyens comme son âme, à force d'être assimilable, on finira en code barre. Individu consommable mis dans des cases inflexibles. Et si je brise les chaînes invisibles des identités hybrides, la complexité sera ma résistance, mon fond de commerce. Cela fera de moi un mauvais commercial, mais un homme libre. Non aligné, je me faufile dans les strates et de mon poids, fais tourbillonner diversité sur les visages hagard. Nos règles sont telles qu'en tant que un, je m'incline devant toi, mais ça étendra mon multiple loin au-dessus de ton regard. Appelle ça du rap, du slam, du punk, ça ne me regarde plus. Quand tu mets mon pied dans une case, sais-tu où l'autre se situe? Si loin que c'est ça, être un géant, commercialement c'est gênant, perdre son rendement dans mes bas-fonds sans issue. Et au fond du trip, j'ai atteint ton esprit là où ça rip. Le système t'attendait assimilé et réduit comme une icône qui s'agite. Mais tu retrouves les paradoxes, les contrastes et tu flippes dans ce face sa face entre l'un et le multiple.
N'empêche que moi, je voudrais bien être une petite souris en ce moment et être dans ces et dans les quartiers que vous décrivez, chez ceux que vous décrivez. Encore une fois, on rappelle que ce bouquin peut être lu partout parce que d'abord, on comprend beaucoup mieux notre pays si on a envie de savoir, qu'on soit n'importe qui dans ce pays, si on veut savoir un peu dans quel pays nous vivons, c'est une contribution absolument remarquable. Mais là, si on est à Amiens, les Amiénois sont en train de lire ça, et dans les quartiers, on est en train de lire ça. Ce serait assez curieux d'être à côté d'eux au moment où ils disent « Attends, qu'est-ce qu'il a écrit, là, François ?» Et puis comment, qu'est-ce que c'est que ce style-là? On est en train de parler de littérature et tout. Ça va être marrant d'être là.
Ceci dit, la réception du livre sur le quartier, il y a un certain nombre de chapitres que je savais, notamment qui raconte l'histoire des caïds, ce qu'on appelle le caïda, hein, sur le quartier nord, c'est-à-dire une, quasiment une manière qu'a eu l'État de déléguer la gestion du quartier à un certain nombre de, soit de, je dirais, de gros bras ou de fortes têtes.
On va parler des caïds, mais ce que vous nous apprenez, puisqu'il y a une population harki importante à Amiens, c'est pas le seul endroit en France là non plus, mais vous, le mot caïd a une histoire.
C'est-à-dire que qu'est-ce que c'était le caïda en Algérie ? Le caïda en Algérie, c'était en fait, il y avait le commissaire qui était là pour gérer les populations françaises, dont je parle dans les zones rurales, hein, et il y avait le caïd qui lui était un indigène et qui était là un peu le chef pour gérer les autres indigènes. Et finalement, quelqu'un qui lui disait mais non, mais ça devrait être un état de droit, un indigène qui aurait voulu se plaindre de ce que lui faisait le caïd parce qu'il le ponctionnait, parce que c'était pas possible, il pouvait pas aller se plaindre auprès de l'autorité républicaine, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que ce modèle là ce modèle du caïda, il a été quasiment été reproduit, il a été ramené en France. Les harkis arrivent au début des années 60, il y a un ancien commandant de l'armée française en Algérie, mais algérien, indigène, quoi, qui est chargé de gérer toute cette population et à qui on vient dire pour les meubles, pour relever les loyers, pour tout ça, c'est toi qui te débrouilles. Et quand un harki voulait aller voir directement la préfecture, on lui disait non, toi ça va pas, toi tu dois passer par le caïd, enfin on disait pas par le caïd, mais tu dois passer par le commandant. Et ça s'est reproduit aussi dans la génération suivante. C'est-à-dire que il va y avoir une société de sécurité, par exemple, qui va être montée sur le quartier nord et qui va concentrer, c'est quasiment une police parallèle, qui va concentrer un certain nombre de pouvoirs sur le quartier. Et donc, c'est une délégation de la force publique. Il y a là une délégation de la force publique. Et forcément, raconter aujourd'hui et raconter les émeutes qui s'en sont suivies, parce qu'il y a au démantèlement de cette société, se sont produits un certain nombre d'émeutes. Raconter aujourd'hui toute cette histoire du caïda jusque dans les dernières générations, c'est quelque chose qui, auprès des représentants, ceux qui sont généralement les, ça va être un animateur ou ça va être un travailleur social, un responsable d'association. Et les représentants vont peut-être sont heurtés aujourd'hui par cette analyse finalement, est-ce qu'on fait pas jouer un rôle de caïd à un certain nombre de personnes sur ce quartier. Donc ça nuit évidemment à la réception du livre, puisqu'il y a des gens qui sont un peu plus, enfin, qui ont construit le quartier de cette manière-là, qui viennent rameuter en disant ça doit pas se passer, c'est pas normal que ce livre soit écrit comme ça, on remet en cause notre rôle, un rôle qui a été jugé positif par la presse, par les politiques, qui sont toujours entendus avec eux jusqu'à aujourd'hui, et qui a un bouquin qui vient dire peut-être que l'histoire peut être reliée autrement, ça déplaît, quoi.
Alors donc il y a des débats à Amiens ?
Oui, c'est clair qu'il y a des débats. Ouais.
Public ?
Non, pas public.
Pas encore.
Simplement, la conclusion, c'est de dire si les fils de bourgeois avaient été abandonnés dans le quartier, devaient se bagarrer pour obtenir des postes de balayeurs, pour obtenir un revenu à 3000 balles et n'y parvenaient pas, même pour ces emplois d'exécutants-là, on imagine la révolte que ça serait au niveau national. Aujourd'hui, c'est le cas pour toute une classe que je pense abandonnée, quoi. Et on s'étonne quand il y a un début de révolte. Donc je pense que la conclusion qu'il y a en tirer, c'est quand même de replacer cette question sociale au cœur des débats politiques et des débats médiatiques. Mais c'est vrai qu'il y a un peu un fonctionnement, c'est-à-dire les politiques, les médias, voire les chefs d'entreprise appartiennent grosso modo ont grosso modo les mêmes origines sociales. Moi, j'ai personne de ma famille qui se trouve en prison. J'ai personne de ma famille qui est mort d'overdose. J'ai personne de ma famille qui se trouve en hôpital psychiatrique. Et c'est le cas pour grosso modo l'ensemble de ce qu'on appelle l'élite dans ce pays. Donc à partir de ce moment-là, ça a induit une vision beaucoup plus confortable de la société, qui fait que ce qui se passe dans les hôpitaux psychiatriques, grosso modo, on s'en fout. Ce qui se passe en matière de drogue dure, grosso modo, tant que ça peut rester limité.
Tant qu'ils dégomment entre eux, c'est bon.
Voilà, tant que c'est entre eux, c'est bon. Et ça, moi, j'ai un certain nombre de jeunes qui mènent eux-mêmes cette analyse-là, qui disent c'est une bombe qui nous a explosé la gueule. Et tant que c'était à notre gueule, les autres s'en foutaient. Par contre, dès qu'on allait vendre un peu de cam à un fils de dentiste, alors là, les flics nous rentraient dedans, quoi. Tant que c'est cette classe-là qui est abandonnée, on s'en fout.
Est-ce qu'il y a quelque chose de libérateur dans le fait de dire aux gens vous avez une histoire. Ce bouquin, c'est ça. Ce que vous faites avec ce bouquin, c'est dire à ces gens, qui que vous soyez, enfin, de bon, mauvais, dealer ou pas dealer, dans la merde ou pas, vous avez quand même une histoire.
Oui, c'est ça. J'oublie, on m'appelait son psychothérapeute, quoi. Mais il y a un travail qui est un peu de cet ordre-là, qui est, ah bah oui, finalement, ma vie, elle s'est passée de cette manière-là. Et finalement, en discutant, il arrive à comprendre pourquoi ça n'a pas été. C'est-à-dire qu'au départ, ça va être le mektoub, ça va être la fatalité, c'est le destin. Et finalement, en discutant, en reconstruisant le parcours, il va y avoir, ah oui, c'est vrai, tiens, t'as raison, à ce moment-là, ça a foiré pour cette raison-là. Et peut-être qu'effectivement, si j'avais eu ce bagage scolaire-là supplémentaire ou ce truc-là supplémentaire, j'aurais pu réussir. Donc effectivement, il y a un mode de reconstruction de son parcours, de compréhension de ce qu'a été son parcours. Et puis, il y a une jouissance à se raconter de toute façon. Il y a une jouissance chez tous, hein, quasiment. C'est valorisant quand même. C'est des types, je les appelle les valeureux. Pour moi, c'est les valeureux du quartier nord. C'est-à-dire que c'est des mecs qui sont quand même globalement courageux, qui sont en même temps drôles. Ça fait référence aux valeureux d'Albert Cohen.
Manche-clou.
Voilà, Manche-clou, Oncle Salciel et tout ça. Donc, je les appelle les valeureux parce que c'est des mecs qui ont pas conscience, pour beaucoup, il y a eu tellement une dégradation.
De leur valeur.
De leur valeur. Alors qu'il y a une valeur qui est extraordinaire. Moi, Zoubir, pour moi, ça a été un poète, ça a été un philosophe. C'est pas moi qui lui ai apporté à Zoubir. C'est lui qui m'a immensément apporté. Le monde social, après deux années avec Zoubir, le monde social après un an avec Rodrigue, après un an avec le président, après avoir croisé Junaid, après avoir croisé tous ces gens-là, mais c'est eux qui m'ont ouvert les yeux. C'est pas moi qui arrive vers eux pour leur donner la vérité. C'est eux qui m'aident à ouvrir les yeux et à regarder le monde social. Et aujourd'hui, en tout cas, une partie de mon pays complètement différemment, quoi.
Voilà, c'était François Ruffin. Je rappelle le titre de son bouquin, Quartier Nord. Ça sort chez Fayard. La coordination étudiante lycéenne a adopté hier un appel à une AG commune de tous les acteurs. Ça, c'est un message que m'a donné à lire Pascal Pastoriello, que je découvre. Tous les acteurs de lutte actuelle sur la région parisienne, cette AG est ouverte à tous, étudiants, lycéens, travailleurs, dont les sans-papiers. Elle est prévue demain, vendredi 14 avril à 11h. À l'université de Nanterre, Amphi A1. Et toutes les informations, celles-ci et d'autres, sont disponibles sur le site de Radio France, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis technique, aujourd'hui Armel M et Antoine Viossa. C'est Yann Chouquet et Koye Nguyen qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Pascal Pascariello et Raphaël Moutarde. Pour le répondeur, ne vous inquiétez pas, Christophe Imbert est en vacances, il reviendra très bientôt, je sais qu'il a son fan club, ne soyez pas inquiets. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, et le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Réclame.